What button?
Radio Clash on Pirate Satellite.
Idiots in the chair.
Not nip.
What button?
Not nip.
Vous êtes sur Radio Campus Paris dans votre émission What Bottom et je suis avec Philippe Marcel Jung, musicien multi-instrumentiste prolifique et iconoclaste, véritable faiseur, façonneur de son. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors tout d'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur les bases puisque ton parcours, comme je l'ai dit, est prolifique. Il a commencé dans les années 70, il a été jalonné de rencontres et de collaborations avec notamment John Greaves, ancien membre de Enrico, qui a joué notamment avec Robert Wyatt en 75, mais aussi Pip Pyle, membre de Gond, Hatfield and the North, et surtout Yanis Xenakis, que tu as rencontré en 91, si je ne me trompe pas, année de la sortie aussi de ton premier album.
Exact.
Donc je voudrais que tu reviennes un peu sur ce long parcours et ces rencontres qui ont marqué tout ça, forcément.
Bah, la rencontre avec Yanis Xenakis, ça a été surtout un moment intense, puisque c'était l'époque où je sortais mon premier album, et j'avais besoin de retour et il a été parfaitement à l'écoute de ma demande lors d'une masterclass à Évreux. Quand je lui ai offert le disque, je ne pensais pas que le lendemain, il me donnerait son avis sur ce travail. Il m'a surtout encouragé à continuer dans cette voie, quoi. Voilà. Et ça a été un peu un déclencheur pour la suite des événements.
Et Pyle et Greaves, avec qui tu as fait un album, comment ça s'est passé ce processus ?
C'était un vieux rêve de travailler avec des musiciens de l'école de Canterbury. John habitait en Normandie à cette époque-là et suite à un article dans les Enroc, un ami m'avait donné cette information et j'ai tenté ma chance. J'ai passé un coup de fil et puis nous sommes rencontrés et après réflexion, nous avons travaillé un petit peu à la maison et puis ensuite on a fait des tests en studio et puis l'album s'est construit comme ça au fil du temps. John avait aussi envie que Pip participe à ce projet. Quand nous sommes retournés en studio après, Pip a joué de la batterie sur les morceaux et puis les morceaux sont construits de façon simple et efficace. Alors, ça s'est fait en pointillé, quoi. On a clôturé l'album 4 ans après, quoi, voilà. Donc ça a pris un certain temps, mais l'esprit était toujours là, et puis on a réussi à faire cet album de façon très agréable, et aussi avec François, bien sûr, au studio, et qui nous a permis de travailler de façon très professionnelle, quoi, voilà.
Et on va tout de suite écouter un extrait de cet album sorti en 2001.
Thank you.
Il y a un point commun que je retrouve moi dans tous tes projets, c'est ce rapport très ténu toujours à l'image. Comme si la musique, la composition était une sorte de processus cinématographique. D'ailleurs, tu voyages beaucoup, tu reviens de Chine il y a quelques jours. Et les CD, j'ai l'impression, sont souvent inspirés d'une rencontre avec un pays, d'une atmosphère spécifique. Pour toi, c'est plus l'image qui t'amène au son, le son qui crée l'image. En fait, comment tu construis ce lien ?
C'est assez instinctif, en fait. C'est pas forcément le propos du moment. C'est des fois, on réfléchit longtemps à l'avance. Après, il faut démarrer, il faut mettre en place les choses. Et là, les choses se mettent en place de façon instinctive. Il n'y a pas trop de réflexion, sur l'instant en tout cas. Ce sont des images internes qui défilent et qui sont transcrites par le son.
Tu parlais de sonographie. Est-ce que tu peux expliquer un peu justement ce que c'est ? Est-ce que ça a un rapport justement entre ce lien image et son ?
Alors, sonographie, c'est un néologisme en fait, qu'un ami a trouvé par rapport à mon travail, qui trouvait que c'était assez photographique, cinématographique. Donc son, sono, sonographie, graphique, phonographie. Voilà, on est arrivé à sonographie. Ça me semblait être la bonne appellation pour trouver une étiquette pour se justifier. Donc voilà, c'était l'idéal pour moi, quoi.
Justement, en parlant d'étiquette, même si ce serait limite inintéressant de placer ton projet dans un style musical défini, pour moi, si on veut un peu taper large, on va dire, ce sera entre la musique concrète et progressive. Tu utilises souvent dans tes projets des espèces d'ustensiles qui sortent un peu de la vie de tous les jours, etc. Comment tu travailles vraiment concrètement la matière sonore ? Comment à un moment tu te dis, tiens, cet objet-là, il est intéressant, on va essayer d'en faire quelque chose ? Quel est le processus ? Même vu que tout est quand même beaucoup de l'improvisation. Comment tout ça se construit, en fait ?
Ça se construit bizarrement, en fait. Il y a diverses façons de faire. J'essaie d'associer ce qui est totalement inassociable. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas un piano avec un son de ferraille qui traîne ici ou là. Tout ça, c'est assez improbable. Puis, à un moment donné, au studio, on se dit, voilà, c'est le moment de les associer. Et puis, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais bien souvent, ça fonctionne.
Tout de suite, un extrait de ton premier album, Subiméthane, sorti en 1990, et le morceau s'appelle « Quand meurt le morse ». Alors cette émission s'appelle What Bottom, en hommage forcément à l'album Rock Bottom de Robert Wyatt. Je retrouve toujours un petit peu de lui dans tes projets, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, je suppose.
Absolument. Je pense que c'est un maître parmi les nombreux musiciens qui ont fait avancer les choses et qui continuent à les faire avancer. Même si aujourd'hui, je pense qu'il a pris une retraite... si on peut appeler ça comme ça, enfin, il s'est mis un petit peu à l'écart, mais il a toujours été en avance sur son temps, il a toujours su mélanger les choses qui n'étaient pas mélangeables. Je pense que humainement, c'est quelqu'un de très fort et qui a su aussi, par son absence, rester présent, toujours.
Aujourd'hui, quand on parle de musique un peu des années 70, etc., on observe un grand retour à cette esthétique musicale, plein de groupes qui veulent copier, même le procédé, le retour analogique, etc. Tu vois ça plutôt comme une copie des anciens sans grand intérêt au final, ou t'arrives encore aujourd'hui à trouver des trucs innovants qui te plaisent ?
Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est les jeunes groupes qui essaient de refaire ce qui a déjà été fait. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, des groupes qui ont des idées fraîches, j'ai pas de nom à citer, évidemment, mais ce serait dommage pour les autres. Mais il y a quand même un certain nombre de formations ou d'artistes solo qui ont des visions futuristes, on va dire, de la musique, ce que pourrait être la musique de demain. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de reproduire ou d'essayer de garder un certain style d'une époque qui, là, pourrait être un petit peu moins intéressant, en tout cas, ou ennuyeux. Moi, je suis pour l'aventure du futur. Évidemment, j'ai été baigné par les années 60 et 70, mais maintenant, il me semble que voilà, faut aller de l'avant. Il y a des idées neuves qui vont jaillir et qui seront certainement d'inspiration de ceci ou de cela et qui seront forcément les artistes de demain.
Si tu devais me citer comme ça, deux, trois grands groupes, artistes, albums ou morceaux qui t'ont marqué, qu'ils soient anciens ou plus actuels.
Moi, il y a Anthony and the Johnsons que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une vision assez ancienne et en même temps futuriste. Donc, ça m'emmène, ça m'émeut. Évidemment, il y a eu Captain Beefheart, bien sûr, qui était un des artistes phares. Sun Ra, pour les femmes, Joni Mitchell, évidemment. Björk aujourd'hui aussi qui fait encore des choses intéressantes. Et puis bien sûr certainement tout un tas de groupes que je ne connais pas encore et puis qui vont forcément m'intéresser à un moment donné.
What bottom?
Cette émission est à retrouver en podcast sur l'onglet What Bottom de la page du site de Radio Campus Paris. Et pour retrouver toutes les actualités de Philippe Marcel Jung, rendez-vous sur son site philippemarceljung.fr.
What Bottom.